France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 7 novembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Cindy Le Grumelec et Déborah Dagobert à la technique. Vous avez peut-être passé la semaine suspendue au dépouillement des bulletins de vote des élections américaines ou à l'état des lieux de cette première semaine de confinement saison 2. Eh bien, je vous propose ce matin de nous échapper pendant 1h30, de partager votre petit déjeuner avec plusieurs joyeuses personnalités. À 7h45, la mezzo-soprano Adèle Charvet partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous emmènera au pays de Cocagne des chœurs universitaires. À 8h40, notre reportage, Marie Jiquel s'intéressera aux concerts virtuels qui fleurissent sur la toile. Le violoncelliste du Quatuor Ébène, Raphaël Merlin, viendra me rejoindre à 8h30 pour parler des enjeux écologiques auxquels les musiciens doivent faire face. Et puis à 8h50, Christophe Chassol nous dira tout du fabuleux album de John McLaughlin, My Goals Beyond. Très bon début de journée avec nous. Et qu'est-ce que j'aime ce troisième mouvement de cette sonate en du mineur Deutsch 958 de Franz Schubert, interprété ici par Adam Laloum pour démarrer tout en douceur ce matin. À 7h34, j'avais envie de vous parler d'autre chose, de la discothèque idéale de France Musique qui vient de paraître aux éditions Grund, un livre qui présente 250 disques à acquérir sans plus tarder, de tout sélectionner par les producteurs de France Musique, s'il vous plaît. Alors, je l'ai sous les yeux, hein, il est splendide. 250 enregistrements de Maria Callas à Glenn Gould, en passant par Mathias Gurn, mais aussi la nouvelle génération d'interprètes. Cette discothèque idéale mélange musique classique, jazz et comédie musicale. C'est un ouvrage qui a été dirigé par Lionel Esparza. Si vous souhaitez l'acheter, bien rendez-vous sur francemusique.fr. Vous trouverez une page dédiée au livre à la rubrique événements. Et pour ma part, j'ai sélectionné pour ce livre ce disque de la soprano Sabine Devielle, Le grand théâtre de l'amour de Jean-Philippe Rameau, d'où voici Forêt paisible, air des sauvages, des Indes galantes. Sabine Devielle chante en duo avec Emery Lefebvre et puis avec le jeune chœur de Paris, Les Ambassadeurs et Alexis Kosenko. Fort et paisible, extrait des Andes galantes de Jean-Philippe Rameau avec Sabine Devielle, Emery Lefebvre, le jeune cœur de Paris, les ambassadeurs et Alexis Kosenko à la direction. Un disque sélectionné dans la discothèque idéale de France Musique, paru donc chez Grund et que vous pouvez acquérir sans plus tarder sur le site francemusique.fr.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et on en parle régulièrement sur cette antenne, de cette actualité qui contraint les salles de spectacle et de concerts à se réinventer et à sauver des productions déjà engagées, mais sans public. Alors pour les relayer, eh bien France Musique est sur le pont, bien sûr. Je voulais vous annoncer ceci, samedi prochain, dans Samedi à l'Opéra, vous pourrez suivre en direct la retransmission de l'opéra Hippolyte et Aricide de Rameau, dont on parlait à l'instant, ce sera à l'Opéra Comique. Et puis du 23 au 28 novembre, le Ring à l'Opéra Bastille, version de concert, sans oublier les concerts maison qui reprennent eux aussi sans public, mais sur France Musique. Restez donc bien à l'écoute de notre antenne qui est plus que jamais aux côtés des musiciens. troisième mouvement du concerto pour piano en ré majeur, Boken 18 numéro 11 de Joseph Haydn. Marc-André Hamelin ici, accompagné par les violons du roi et Bernard Labadie. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Adèle Charvet.
Bonjour.
Quel plaisir de vous avoir avec nous.
Ah mais tout le plaisir est pour moi.
Vous allez
Je
bien
prends un café.
Ah mais très bien, c'est une bonne heure. La mezzo-soprano Adèle Charvet qui est avec nous ce matin. Alors l'actualité bouscule certes l'agenda des salles de concert hein, Adèle, mais j'avais envie que l'on parle de cette mission qui vous a été confiée par la Maison de la Radio pour cette saison 2020-2021. Marraine du Pass moins de 28 ans. En quoi cela consiste Adèle?
Oui, j'ai le plaisir d'être marraine, donc la première marraine du Pass moins de 28 ans. C'est la première année que une chose comme ça se passe. Ça consiste à promouvoir les concerts de Radio France pour un public plus jeune. Le Pass moins de 28 ans, c'est 4 concerts pour 28 euros en tout, c'est-à-dire 7 euros la place. C'est très peu cher. C'est une très belle initiative de Radio France, je trouve. J'espère que quand les concerts reprendront, ça fera venir un public plus jeune. En fait, l'idée, c'est pas tant... évidemment, briser la barrière des âges au concert, mais c'est surtout faire venir des gens sensibles avec une programmation de concerts qui est quand même extrêmement variée à Radio France. Il y a quelques concerts qui sont estampillés jeunes. Je pense notamment au concert Zappa du 12 décembre. Nous sommes déconfinés d'ici là, c'est un concert qui allie la musique de Zappa avec la musique de Stravinsky de Varèse, dirigé par Nico Franck, auquel j'aurai le plaisir d'assister et en principe rencontrer justement les...
Oui, je crois qu'il y a une rencontre qui sera organisée juste avant le concert avec les détenteurs du pass.
Absolument. Il y a aussi, je pense aussi au concert du 6 mars 2021, qui est un concert participatif de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, où le public peut jouer, peut apporter ses instruments et se joindre à l'orchestre. Je trouve que c'est une initiative géniale. Mais je tiens à préciser que le pass jeune ne se limite pas à ces concerts estampillés jeunes.
Voilà, on peut choisir absolument ce qu'on veut dans le catalogue dans la programmation de la Maison de la Radio. Effectivement, aller faire un tour sur le site maisondelaradio.fr pour vous abonner et puis pour, si vous avez de la chance, rencontrer Adèle Charvet en vrai de vrai. Ce sera le 12 décembre prochain. Alors le 5 novembre dernier, vous étiez sur scène, Adèle, votre concert Musique au Louvre, programme français-italien donné Sèvres Gaveau avec le poème harmonique, a été enregistré sur France Musique, sera diffusé prochainement. Mais parlons d'avenir. Malgré cette actualité des concerts un peu maussade, vous avez quelques projets?
Ben oui, j'ai une très très belle saison qui me tient tellement à cœur si le Covid le permet. je commence la répétition du programme Magic Mozart d'Insula Orchestra avec en principe donc des concerts qui devaient avoir lieu les 14 et 15 novembre. Évidemment, ce ne sont pas des concerts, mais je croise les doigts, une captation. Je commence aussi les répétitions de Carmen à l'Opéra Bastille, où je chante le rôle de Mercedes. C'est ma première production à l'Opéra de Paris, donc je suis extrêmement heureuse et honorée, et j'espère aussi qu'on pourra la porter au public. J'ai une saison entièrement française cette année, avec ma première Mélisande, Péléas et Mélisande à l'Opéra de Rouen, fin janvier 2021. Je chante le rôle de Célisette dans Ariane et Barbe Bleue, fin mars, toute la deuxième moitié de mars, et surtout, c'est un peu le highlight.
Voilà, c'est ça que j'allais dire.
et puis un rêve d'enfant, ma première Carmen dans le rôle titre à l'Opéra de Bordeaux.
Ce sera au mois de juin.
La première quinzaine de juin.
Oh, on a hâte en tout cas de vous entendre Adèle, et on croise les doigts effectivement pour que eh bien l'actualité évolue dans le bon sens. Vous nous dites quelques mots rapidement Adèle Charvet sur votre choix musical.
Oui, alors j'ai choisi un lead de Hugo Wolf, qui est un de mes compositeurs favoris, un des compositeurs que j'adore interpréter par-dessus tout en récital. Cette version, c'est le Wandersnachtlied numéro 1, qui est un poème mythique de Goethe, qui est simplement le poète en quête de paix. Je pense qu'on cherche tous un peu de paix en ce moment par les temps qui courent. En tout cas, on en a besoin. Moi, je me réfugie beaucoup dans la musique, en tout cas pour ça. Et la musique de Wolf est magique par ses éclairages et par sa tension. On a toute la tension des tourments du monde dans ce lead, mais on a des moments de lumière, des moments de repos. Et j'avais très envie de le faire entendre aux auditeurs de France Musique ce matin.
Merci beaucoup Adèle, à très bientôt sur les ondes de France Musique.
À bientôt Saskia, merci.
Van der Snachtlied, Hugo Wolf, interprété ici au Festival de Salzbourg en 1960 par Dietrich Fischer Disco et Gerard Mohr au piano. C'était le choix musical de la mezzo-soprano Adèle Charvet. Et je vous offre ce matin ce disque de Michel Portal et Paul Meyer, baptisé Double, et paru il y a quelques semaines chez Alpha. Michel Portal, clarinettiste mythique, musicien à la croisée du classique, du jazz et de la musique de film. Paul Meyer, autre ambassadeur d'exception de cet instrument. Ils proposent ensemble un programme mélangeant répertoire baroque, galant, romantique. On nous trouve également des duos pour clarinette de Carl Philipp, Emmanuel Bach. Alors, si vous voulez tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur « Contactez-nous » et vous laissez vos noms, prénoms et adresse postale complète et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Rendez-vous donc sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Thank you. Le deuxième duo pour clarinette en ut majeur de Carl-Philippe Emmanuel Bach, joué par Michel Portal et Paul Meyer en duo. Un extrait de ce disque double paru chez Alpha, qui est donc à remporter ce matin sur francemusique.fr. Et puis, j'en profite pour vous signaler que le concert que Michel Portal donnera aux côtés de Louis Clavis et Médéric Collignon au Triton le 20 novembre prochain, sans public, confinement oblige, eh bien, ce concert sera enregistré par France Musique et diffusé très prochainement dans le Jazz Club.
Samedi à l'Opéra, de 20h à 23h, Judith Chen, France Musique.
À l'affiche de la soirée lyrique cette semaine, une rareté absolue, Georges le Rêveur, de Zemlinsky. C'est l'Opéra National de Lorraine et l'Opéra de Dijon qui ont eu l'idée merveilleuse de réveiller le bel endormi. Daniel Brenna campe l'imposant rôle-titre avec éloquence, tandis que Marta Gardolinska dirige les forces orchestrales avec maestria. Une très belle découverte. Branchez-vous.
Samedi à l'Opéra, à retrouver sur France Musique et en podcast sur l'application Radio France.
L'orchestre, comment ça marche? Je vous invite à un voyage au cœur de l'orchestre pour explorer les rouages de cette étrange communauté humaine où 100 personnes jouent comme une seule. Rendez-vous au cœur de l'orchestre tous les dimanches de 9h à 11h sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin qui est avec nous ce matin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et à l'occasion des élections américaines, vous proposez de nous faire découvrir ou retrouver quelques merveilles du répertoire choral nord-américain et en particulier avec des chœurs universitaires. J'adore ça.
Oui, dans de nombreuses universités, la pratique vocale et chorale de groupe est extraordinairement développée avec souvent des projets très singuliers. Comme par exemple Baba Yetu, un chant inspiré d'un autre père en Swahili, composé pour un jeu vidéo en 2005 et ici chanté par le chœur universitaire de Stellenbosch.
Saint-Marc-Olivier, c'est une rencontre enthousiaste entre le sacré et le profane.
Et oui, presque comme à l'époque de la Renaissance ou au Baroque en Europe, quand les compositeurs fous de contrepoint développent sur un choral, par exemple avec Bach, au risque de vous étonner. Dans ce qu'on va entendre, les sources sont plutôt dans la musique religieuse revisitée par la tradition orale, comme à partir d'un spiritual par le Georgia State University Singers, un bel arrangement de « My Soul's Being Anchored ».
Les Américains semblent bien moins timorés que nous lorsqu'il s'agit de faire des arrangements.
Oui, en tout cas, moins que nous sur le vieux continent européen d'aujourd'hui, car les baroqueux Bach et Mozart et beaucoup d'autres virtuoses du 19e siècle ne s'en privaient pas du tout. En fait, le répertoire choral américain recèle d'arrangements absolument magnifiques, et quand on est chef de chœur, ça vaut vraiment la peine d'aller fouiner. Autre exemple absolument magnifique, un arrangement pour voix de femme de I Got Rhythm de Gershwin, réalisé par le génial Ward Single, le fondateur des Swingle Singers, que j'aime souvent faire entendre dans cette petite chronique.
Effectivement.
On l'écoute ici avec le chœur de l'Université de l'Iowa.
Et on va l'écouter en entier. Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique. On vous souhaite une très très belle journée. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
Avec joie, Saskia.
I Got Rhythm, George Gershwin, dans cet arrangement signé Ward Swingle, interprété par le chœur de l'université du Iowa, pour, eh bien, cette chronique de Marc Olivier. Il est 8h05. Le deuxième mouvement de la troisième symphonie, symphonie écossaise de Félix Mendelssohn. On écoutait ici Ricardo Chailly et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. À 8h10, j'avais envie de vous faire entendre un extrait de El Nour, La Lumière. C'est le titre du premier album de la jeune soprano égyptienne Fatma Saïd qui vient de paraître. sur le label Warner Classics, disque qui réunit des airs et des mélodies de compositeurs français, espagnols, mais aussi égyptiens. Il y a des airs populaires en arabe qui sont chantés par cette soprano au timbre rond et lumineux, un timbre délicieux, vous allez l'entendre. On va écouter l'air Atani avec Fatma Saïd, un air de Najib Ankash.
Thank you.
Atani Alnaya Wagani, ce qui veut dire « Donne-moi la flûte et chante », mélodie de Najib Ankash sur un poème de Khalil Gibran, interprété par la fantastique Fatma Saïd. C'est un extrait de ce disque « Elle nourre la lumière », paru chez Warner Classics. Il est 8h15 sur France Musique. Très bon réveil. Et c'est lors de notre reportage des milliards d'euros de pertes et des centaines de milliers d'emplois menacés face à la crise sanitaire. Vous l'avez compris, l'industrie musicale est en grande difficulté. Alors face aux annulations en série, le secteur mise sur les concerts en ligne pour retrouver le bonheur de jouer et puis pour renflouer un peu les caisses aussi. Ces concerts virtuels en live streaming, comme on dit, apparaissent, Marie Fiquel, comme la solution pansement aujourd'hui.
Oui, pendant le premier confinement, tous les chanteurs musiciens ont opté pour ces concerts en live via les réseaux sociaux, un moyen de garder le contact avec le public, mais pas la meilleure des initiatives pour éponger les pertes financières.
Bonjour à tous. Alors on a fait un truc, une petite nouveauté là cette fois-ci. On va être sur Instagram et Facebook en même temps. On va essayer.
Tout l'enjeu de ce second confinement, c'est de parvenir à se faire payer pour ses représentations. Le tout jeune CNM, le Centre National de Musique, ne se contente pas de redistribuer les dotations de l'État au secteur. 170 millions d'euros pour cette année 2020. Il travaille en ce moment même sur ses concerts payants via nos écrans. Jean-Philippe Thiellet, le président du CNM.
Nous allons sortir une étude qui fait l'état des lieux des questions de la diffusion des spectacles musicaux en streaming. Parce qu'il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes matériels, il y a des problèmes financiers. Et donc il y aura évidemment des recommandations, des guides de bonnes pratiques et l'analyse des questions parce qu'il est possible de trouver des modèles économiques, c'est-à-dire avec des recettes, des budgets équilibrés et évidemment même des opérateurs privés qui peuvent ensuite monter leur affaire sans argent public. L'objectif, c'est pas de tout subventionner nécessairement.
Justement, le pianiste Ismaël Marguin a vu 90% de ses projets annulés ces derniers mois. C'est donc avec trois copains, artistes aussi, qu'il a monté en juin dernier Recital, sa plateforme de concerts en streaming, comprendre en ligne. Depuis son canapé, pour une dizaine d'euros, on peut apprécier du Schubert ou du Michel Legrand. Et puis si le concert vous a plu, une sorte de chapeau virtuel est activé pour aider un peu plus les musiciens et les producteurs. Quant à la captation en elle-même, elle ne coûte pas si cher à réaliser.
Peut-être avec quelques centaines d'euros, on peut se débrouiller pour faire des captations professionnelles tout à fait correctes, avec une qualité audio sur le site qui est proche de la qualité CD, et la qualité image, bah évidemment, elle dépend des caméras dont on dispose. Mais encore une fois, ça coûte assez peu cher maintenant, et c'est des sommes qui peuvent être très facilement remboursées par la billetterie en ligne.
Bien sûr, les captations n'offrent pas l'acoustique d'une salle de concert, mais elles apportent des plus sur lesquels le jeune pianiste et le président du CNM mise comme l'interactivité au-delà des frontières.
L'avenir de ces captations, c'est pas uniquement ouvrir un robinet à images et à sons, c'est qu'il faut travailler sur l'interactivité. Mais bien sûr, l'interactivité, l'interaction avec les artistes, et je suis convaincu qu'il y a un public pour ça.
On est suivi par des gens en France et à l'étranger. Il y a certains concerts qui sont suivis sur 3 ou 4 continents, certains concerts où il y a une dizaine de pays différents. Et on voit sur le chat des gens qui sont aux États-Unis, au Brésil, au Japon. On a eu un concert de musique japonaise qui était merveilleux comme ça, avec plein d'internautes qui suivaient le concert au Japon.
Vous l'avez compris, Saskia, on pourra donc aussi compter sur les spectateurs étrangers. L'autre avantage de ces plateformes, la proposition de différents formats, des masterclass par exemple, ces leçons données virtuellement par des professionnels, ou des concerts filmés depuis la maison des artistes. Des services payants pour offrir au secteur une petite respiration dans ce monde confiné. En attendant, Ismaël Marguin continue de travailler de chez lui et le directeur du CNM, entre deux dossiers à traiter, a choisi Bellini pour s'apaiser.
Castadiva, la Norma de Bellini, interprétée ici par Cecilia Bartoli. Un reportage signé Marie Jiquel. Merci beaucoup Marie et à la semaine prochaine.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Guillaume Bellum en duo ici avec Ismaël Marguin, un extrait, l'une de ses variations sur un thème de Haydn, la septième de Johannes Brahms. Eh bien, Ismaël Marguin, donc, qui dirige cette plateforme de concerts en ligne payant Recital, dont on parlait à l'instant. Recital, donc, des concerts captés et puis diffusés en ligne. France Musique, je vous le disais également, le fait sur son site et puis à l'antenne. On vous continue de suivre l'actualité des concerts pour vous. Et on vient de l'apprendre, l'Auditorium du Louvre proposera désormais aussi sur YouTube des concerts filmés. Vous y retrouverez dans les prochaines semaines Sandrine Pio et le concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin, mais aussi le duo violon-piano de Francesca Dego et Francesca Leonardi, et également Sébastien Dossé et son ensemble Correspondance.
Oh!
Sébastien Dossier à la direction de l'ensemble Correspondance pour ce Gloria, extrait de la messe à quatre chœurs de Marc-Antoine Charpentier, un extrait de ce disque paru il y a peu chez Harmonia Mundi.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Entre avril 2019 et janvier 2020, le Quatuor Eben se lançait un défi de taille, jouer l'intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven tout autour du monde. Une quarantaine de concerts dans 18 pays et sur les 6 continents. Au final, un coffret paru chez Erato baptisé Beethoven Around the World, Beethoven autour du monde. Et bien, on en parle ce matin avec notre invité Raphaël Merlin, violoncelliste du Quatuor Eben. Bonjour Raphaël.
Bonjour Saskia.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'enregistrer ces quatuors de Beethoven sur les 6 continents ?
Au départ, on a été invité, ça fait déjà 6 ans, par le Carnegie Hall de New York pour jouer le cycle complet pendant l'année Beethoven 2020, les 250 ans de sa naissance. Et une offre comme ça, une invitation pareille pour un quatuor à cordes, c'est un peu une sorte de ceinture noire ou de consécration. C'est-à-dire que c'est le grand cycle d'équateur de Beethoven, c'est un peu le noyau dur du répertoire. Et on peut pas vraiment refuser une proposition pareille, mais on savait qu'on allait y laisser beaucoup de temps, de travail, d'énergie. Et d'une certaine manière, pour donner du sens et pour rentabiliser l'effort, on voulait aussi projeter à grandeur, à taille réelle, l'image beethovenienne aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est-à-dire est-ce que son message universaliste et humaniste a été reçu aux quatre coins du monde et comment sa musique aujourd'hui résonne.
Et vous avez trouvé la réponse à cette question ?
Je pense que oui, c'est-à-dire qu'on a en tout cas senti que d'une culture à l'autre, il y a vraiment une résonance assez incroyable de ce langage, effectivement. Sans vouloir déprécier ce qu'ont pu faire les compositeurs de son époque, je trouve que Beethoven a quand même une force rythmique, une force de frappe qui parle plus loin, qui effectivement va plus loin dans des zones où culturellement on n'aurait pas pu l'apprivoiser au préalable. Et pourtant, ça marche, quoi. Pourtant, Beethoven, il est très parlant. C'est de la musique sculpturale, en fait. C'est de la musique physique. Elle vibre et elle se transmet comme une traînée de poudre. C'est assez fascinant ce qu'on a vécu au Kenya, par exemple, ou avec des Maoris en Nouvelle-Zélande, ou au Brésil, avec des jeunes de favelas. Ça, si vous voulez, cette espèce de joie essentielle, elle se transmet, c'est assez spectaculaire, et ça nous a fait vivre des expériences inoubliables.
Vous avez enregistré cette intégrale en 7 volumes. Chaque volume correspond à un lieu que vous avez choisi. Philadelphie, Vienne, Tokyo, Sao Paulo, Melbourne, Nairobi, encore Paris. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette envie d'enregistrer justement dans ces lieux choisis ?
Ben, je crois que c'était au départ assez clair qu'on allait enregistrer parce que c'est tellement de travail, 8h30 de musique quand même le cycle Beethoven, hein, et d'une musique particulièrement exigeante, donc on allait de toute façon le graver, et on a eu peur du caractère parfois aseptisant de l'enregistrement en studio, parce que quand vous êtes en studio, vous cherchez un définitif, une photographie, un idéal, certes, et vous en avez les moyens, mais du point de vue de l'inspiration et de l'imagination, il y a une limite qui peut parfois tomber là-dessus. Au contraire, renouveler les rencontres avec des publics et des salles différentes et des cultures, des pays, des odeurs, des températures, tout ce que vous voulez, à chaque fois, ça nous revivifiait, ça nous redonnait une sorte d'énergie neuve pour produire un nouveau disque. D'habitude, le Quatuor Eben enregistre 1 voire 2 disques par an, et là on s'est retrouvé à enregistrer 7 disques en 8 mois, ce qui est extraordinairement dense, et on avait peur de manquer de cette inspiration, et le pari a été gagné de ce point de vue là on a souffert, c'était parfois très dur de tenir des tels délais, on a travaillé comme des fous, mais ce qui est certain, c'est que jamais on a manqué d'inspiration, ça c'était l'objectif recherché. Et puis par ailleurs, on ne le fait qu'une fois, l'intégrale Beethoven enregistrée en live dans une vie, et on s'est dit qu'on allait le faire de manière, encore une fois, à donner du sens dans le monde d'aujourd'hui, comment son message Beethoven est reçu, c'est très important.
Et vous l'avez fait aux côtés des violonistes Pierre Colombet, Gabriel Le Magadur, et puis de l'altiste Marie Chilem. Alors, Raphaël Merlin, dans cette émission, on interroge régulièrement la manière dont les musiciens font face aux enjeux environnementaux. Je ne vous cache pas, c'est pour ça que je vous ai invité pour parler de ce projet. Est-ce que cette intégrale autour du monde, ces enregistrements, ces concerts, est-ce que c'est compatible en termes d'engagement écologique, votre profession de musicien, j'entends ?
Du point de vue noir sur blanc, hein, bien sûr que non. Vous faites le tour du monde en avion, vous libérez tellement de CO2, vous êtes largement au-dessus de ce qu'on pourrait considérer comme la part personnelle. Mais bon, c'est un peu la même chose que si on disait, est-ce que Al Gore en l'an 2000, avec son film et avec son tour du monde, n'a pas lui-même plus pollué que sensibilisé les gens. Nous, notre tour du monde a été compensé par le programme Tree for You, qui est piloté par Air France. On avait un partenariat avec Air France. Il y a 70 tonnes de CO2 qui ont été compensées en reforestation sur chaque continent. D'ailleurs, ça qui était intéressant, c'était aussi le parallèle entre les différentes zones et les différents besoins en agroforesterie de telle ou telle zone qui aurait pu être abusément déforestée ou abîmée. Donc, ça peut être aussi bien en Ontario ou en Île-de-France que au Togo ou en Chine. Il y a vraiment des tas de choses qui ont été mises en œuvre. Donc ça, on est assez content d'avoir pu porter ce projet, mais je pense que c'est surtout dans le message qu'on porte. Les musiciens, nous, on, comme disait Maurice Ravel, on fait de la musique, mais dès lors qu'on se met à parler, c'est là qu'il faut se méfier. Donc on préfère ne pas trop dire. On laisse la musique parler à notre place, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on veut pas mettre au profit des grandes causes de notre temps, le petit vecteur, l'attention qu'on peut capter en faisant de la musique, c'est aussi un canal par lequel on peut faire passer ce message-là.
Mais justement, Raphaël, peut-on sensibiliser aux enjeux écologiques par le biais de la musique de Beethoven, là, ici, en l'occurrence, sur ce projet?
Beethoven, oui, plus qu'un autre. Beethoven était le premier à faire la louange des vertus de l'immersion en milieu naturel pour être lui-même comme compositeur inspiré, mais aussi dans relisez l'hymne à la joie de Schiller. Il est porteur de cette universalité de l'homme en tant qu'être biologique, en tant qu'espèce animale faisant partie intégrante du monde et n'en étant ni supérieur, ni inférieur, ni décalé, ni dominateur. Au contraire, c'est vraiment cette vision de la condition humaine comme étant absolument terrestre et absolument en harmonie supposée et souhaitée à la fois au sein de l'espèce humaine par la recherche d'une fraternité universelle, mais aussi, je pense, de cette présence physique et qui n'est effectivement aujourd'hui plus soutenable de la manière qu'elle est vécue.
Avez-vous observé pendant votre tour du monde les effets de la crise environnementale que nous vivons?
Oui, alors ça c'est terrible parce que nous on se rend pas forcément compte dans les pays développés, il y a tout un travail de nettoyage qui est fait au quotidien, on se rend absolument pas compte de l'empreinte des causes qui sont notre mode de vie et des conséquences qui sont souvent dans les pays en développement. Alors là, plus on va dans des pays pauvres et plus on mesure c'est vertigineux. Le cas extrême qu'on a vu nous pendant cette tournée, c'est au Kenya quand on a été en banlieue de Nairobi, on a vécu 2 jours dans un bidonville de 250 000 habitants, qui est attenant à la plus grande décharge à ciel ouvert de la ville. Et ces montagnes de plastique, de déchets, d'objets en tout genre, sont absolument la production industrielle et à très grande échelle. Ça finit souvent dans des zones comme ça. Soit c'est enfoui, soit c'est stocké dans des décharges. Soit on parle souvent des super tankers qui traversent la planète en emmenant les déchets là où on veut pas les voir. Et en fait, c'est toute une économie. C'est-à-dire que ces 250 000 personnes vivent de ça. D'essayer d'aller récupérer un morceau de métal dans la décharge, et une fois que la mafia locale leur en a confisqué les 9/10, et ben avec un petit bout qui reste, ils essayent sur le marché noir de vendre ça et pour en vivoter. Et ça ce sont dans la catégorie des dégâts qui sont des dégâts sociaux bien sûr, mais il y a aussi des choses très très visibles où les écosystèmes sont détruits directement. Quand on était en Inde il y a quelques années, on a vu sur les plages même de Mumbai des montagnes aussi de déchets qui sont directement dans la mer. Donc là, les déchets dont on dit souvent que ça finit dans la mer et que les ressources halieutiques, les extinctions d'espèces de poissons, etc., toutes ces choses-là sont directement causées par l'homme. On les voit aussi très bien, les dégâts de l'homme, quand on survole les États-Unis. On voit des déserts à perte de vue et puis comme par enchantement, en plein milieu, des zones irriguées qui forment des jolis cercles, comme ça, qu'on voit, ou alors des gigantesques étendues où le bétail est élevé. Et on voit bien que ce que décrit Yann Arthus-Bertrand, par exemple, dans son film Home, c'est une réalité qui est en expansion.
On va continuer à en parler avec vous ce matin, Raphaël Merlin, mais tout de suite, j'aimerais qu'on écoute un extrait de cette intégrale, de cette merveilleuse intégrale des quatuors de Beethoven, le Scherzo du 6e quatuor à cordes. Le Scherzo du 6e quatuor à cordes de Beethoven interprété par le Quatuor Eben sur cette intégrale parue chez Erato, un extrait du concert enregistré à Sao Paulo. Et Raphaël Merlin, violoncelliste du Quatuor, est avec nous ce matin pour nous parler donc de ce projet, de cette intégrale Beethoven Around the World, intégrale des quatuors à cordes de Beethoven tout autour du monde. Et vous nous disiez, hein, Raphaël, ce projet a vu le jour en 2014, du moins l'idée a germé lorsque vous avez été invité au Carnegie Hall de New York. On a évidemment beaucoup parlé des États-Unis hein, cette semaine à propos des élections, mais aussi parce que le pays a été très durement touché par la Covid-19. De nombreux musiciens n'ont plus perçu de salaire depuis mars dernier. Certaines grandes salles annoncent déjà qu'elles n'ouvriront pas avant janvier 2022. Est-ce que vous suivez la situation des musiciens aux États-Unis, Raphaël ?
Oui, alors plus ou moins, je suis pas au courant du détail, mais j'ai entendu en tout cas avec stupeur l'annulation complète de la série du New York Phil et du Metropolitan Opera. Donc New York est effectivement très très durement touché, et c'est, je crois, pour tout le secteur, pour toute l'économie, c'est vraiment l'épreuve du feu, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont se relever de tout ça? Moi, j'ai très peur parce que c'est le poumon de tout le continent, et on a effectivement des témoignages de musiciens qui sont complètement à l'abandon pendant une durée bien trop longue pour entretenir la vie de famille, les choses les plus élémentaires. des gens qui retournent vivre chez leurs parents dans le Midwest ou dans le, je sais pas, dans le en dehors de la Big Apple, quoi, parce que les loyers sont hors de prix, etc. C'est une économie qui est très fragilisée. Et effectivement, la culture prend de plein fouet à cause de cette obligation de s'aligner. Bien sûr, il n'y a pas de raison de pas considérer les mesures distance tous azimuts, mais il y a aussi des études qui montrent bien que la contamination se fait finalement très très peu, voire pas du tout dans les salles de cinéma, de concert ou de théâtre. Et ça, c'est quelque chose qui...
Les gens sont assis effectivement à distance, ouais. Mais c'est là qu'arrive ma question, Raphaël. On parle beaucoup de cette invitation aux musiciens à se réinventer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre situation, vous, de musicien français, j'entends?
Honnêtement, j'en pense pas grand-chose, parce que l'enseignement que j'ai reçu pendant ce confinement et à la reprise, au déconfinement numéro 1, puisqu'il y aura probablement un deuxième déconfinement, c'est tout simplement qu'en retournant sur scène et en retrouvant un public, fut aussi dilapidé soit-il, quand vous jouez dans une salle de 500 sièges pour 70 personnes, et ben la présence de ces 70 personnes, elle est extrêmement forte, elle est partie intégrante de la transmission physique, vibratoire de la musique, alors qu'effectivement, bien évidemment, tout ce qui peut passer par Internet ou par les médias, c'est central, c'est absolument essentiel pour le partage de toutes les musiques qu'on veut partager à grande échelle, bien évidemment. Mais ce qui nous fait nous lever le matin, je crois, c'est quand même le fait d'être en présentiel. Alors évidemment, se réinventer, c'est inventer des tas de manières de sauver ce qui doit absolument être sauvé, c'est-à-dire le patrimoine et l'activité des musiciens, comme tous les artistes. Et ça, là-dessus, il y a plein de choses à faire.
Et cela dit, vous n'avez pas attendu cette crise pour imaginer des projets. Hein. J'aimerais qu'on parle quelques instants de cette tournée à vélo que vous avez réalisé entre Vichy et Clermont-Ferrand. C'était en 2018 avec le collectif de Chambrice, les forces majeures que vous avez créées.
Oui, tout à fait. Bah ça, c'était effectivement, on était bien loin d'imaginer qu'une épidémie viendrait rendre ce genre de choses presque ordinaires. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mes confrères et collègues qui aujourd'hui font des projets à vélo. Dont,
oui,
par
on
exemple,
en a parlé.
Avec Sébastien Dossé,
exactement,
qui est venu chez vous. Et d'ailleurs, j'étais très heureux d'entendre ça. Il y a aussi des ensembles de moins grands effectifs qui font des projets de tournée en vélo à 4 en musique de chambre. Nous, c'est quelque chose qu'on avait mûri avec Martin Kubisch, le directeur de l'Opéra de Vichy, à l'occasion de la résidence d'été des forces majeures à Vichy. On avait plusieurs journées qui étaient des journées un petit peu justement expérimentales. Par exemple, l'avant-veille, on avait éclaté l'orchestre en plein de petits groupes, parce qu'il se trouve que le collectif de Chambrice, comme vous dites, c'est précisément ce qui nous caractérise, c'est qu'en réalité, c'est pas avant tout un orchestre, c'est avant tout des ensembles de musique de chambre qui se retrouvent pour des projets de plus grande envergure, mais ça permet que chacun exprime son répertoire aussi dans des formules éclatées comme ça, ce qui nous permet aussi de nous déployer à très très grande échelle. Et la tournée à vélo, on était une quarantaine et on a fait Vichy-Clermont-Ferrand, 65 km, avec 4 petits concerts qui étaient entrecoupés d'étapes de 25 km, tantôt devant l'opéra, tantôt dans une forêt, dans le parc du château de... le nom m'échappe, mais c'est dans la région, avant d'aller à Pont-du-Château. Et puis on avait joué devant la mairie de Pont-du-Château, le soir devant la cathédrale à Clermont-Ferrand, pour 400-500 personnes, je crois, pendant le cadre du festival Les Contre-Plongées d'été. Donc c'était très très sympa, extrêmement convivial. Et je ne vois pas de meilleure manière de souder un orchestre que de faire former un peloton. Je vous avoue que là, l'ambiance était parfaite.
En tout cas, Raphaël, on espère que vous réenfilerez très prochainement le maillot pour une nouvelle tournée qu'on aura le plaisir de suivre très certainement avec vous. Un petit rendez-vous à noter avant de se quitter, chers auditeurs, les 23 et 24 novembre, 2 live streams, concert en ligne de cette intégrale des Quatuors de Beethoven que vous donnez à la Philharmonie de Paris. Ce sera suivi sur Arte Concert et sur le site de la Philharmonie, bien sûr. Merci beaucoup, Raphaël Merlin. On se quitte avec votre choix musical, Yves Montand, La Bicyclette, quoi d'autre? Bonne journée, Raphaël.
Bonne journée.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons.
Ça marche ? Ah, ok, cool. Merci.
On revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
La bicyclette d'Yves Montand pour terminer eh bien, cette rencontre avec Raphaël Merlin sur France Musique ce matin. Il est 8h51. Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
My Goals Behind, John McLaughlin ce matin.
Exactement, John McLaughlin, un album essentiel que j'espère que les auditeurs vont la courir l'acheter après. On écoute ?
Ré mi fa sol la si do ré ré mi fa sol.
Alors nous sommes en 1971 à New York dans un studio d'enregistrement pour le troisième album de John McLaughlin, que je considère être un musicien tellement important pour le 20e siècle en musique, et je trouve qu'il a changé énormément de choses. C'est un guitariste, compositeur. Il est né en 41 donc, dans la campagne anglaise, et puis il a quitté cette campagne vers 18 ans pour aller à Londres les années 60. Il a joué avec des groupes de rhythm and blues comme Graham Bond Organization ou Georgie Fame. Il jouait la guitare pour vivre. Et puis il était ensuite résident au Ronnie Scott avec colocataire Dave Holland. Ils étaient tout jeunes, 20, la vingtaine. Et il a reçu un coup de fil de Tony Williams, le batteur dont je vous parlais la semaine dernière, qui l'a invité aux États-Unis. En 69, il est arrivé en janvier 69, John McLaughlin, déjà très très fort à la guitare, hein, mais voilà, un genou quand même. Et le lendemain de son arrivée, il jouait avec Miles Davis dans In a Silent Way, et Miles Davis est devenu son mentor. Et voilà, il faut imaginer ce gars qui vient de la campagne anglaise, qui connaît le jazz, le rhythm and blues, et qui commence à s'intéresser à la spiritualité, à la musique indienne, à travers un gourou qui s'appelle Sri Chinmoy. Et c'est lui qui va monter bientôt Mahavishnu Orchestra en 71 aussi. Et Mahavishnu Orchestra, qui est ce groupe vraiment électrique, surpuissant, surcomplexe, fait de polytonalité, de polyrythmie hyper complexe, qui va avoir un succès énorme. Mais avant, il fait cet album que j'adore, que j'écoute tout le temps, depuis très très longtemps, qui s'appelle donc My Goals Beyond, mes objectifs, mes buts, au-delà de mes buts, quoi. Et en fait, on comprend qu'il est en train de façonner son style, quoi, son style unique, hein, vraiment. Moi, c'est je suis pas très guitare comme gars, mais s'il y a une guitare que j'aime, c'est lui, quoi. Et là, donc, dans cet album, il veut montrer la beauté de la guitare acoustique. Vraiment, il veut montrer toutes les possibilités de cet instrument. Et je vous dis, moi qui suis pas vraiment dans la guitare, j'ai toujours écouté cet album pour les accords, pour sa façon de jouer les accords, sa façon de phraser les solos, ses différentes techniques de picking et de grattage. Et donc dans cet album, là, ce qu'on entendait, c'était Piece One. Ça commence comme ça. La première phase de l'album, c'est Piece One et Piece Two, qui sont deux longues pièces d'inspiration indienne, avec Billy Cobham à la batterie, Charlie Haddon à la basse, il y a un violoniste, c'est Jerry Goodman, Dave Liebman à la flûte et au soprano saxophone, Badal Roy, qui est un tabliste indien, et Mala Akshmi, qui est Eve McLaughlin, qui joue du tempura. On écoute la piste 2, pour voir. Paix numéro 2. Donc, c'est normal que John McLaughlin s'intéresse vraiment à cette musique indienne qui partage énormément de choses avec le jazz, des super improvisateurs, des rythmiques complexes. Mais là, c'est vraiment une musique de hippie, quoi. Peut-être 30 ans, il a 30 ans et voilà, il fait ça. C'est un virtuose qui s'intéresse vraiment très très fortement à la spiritualité, donc qui a pris beaucoup de drogue et puis qui veut s'en sortir par la spiritualité, quoi. Donc changer ses états de conscience, mais pas par la chimie. Donc il le fait par la musique et voilà, ça part comme ça ensuite. On va écouter un petit peu la seconde phase de l'album, qui est vraiment la partie guitare acoustique. Alors il a enregistré sa guitare, les accords, et fait les solos avec une autre piste. Donc c'est lui deux fois, on va dire. On va écouter la beauté de certains thèmes qui sont dans cette phase 2. Par exemple, Hearts and Flowers, c'est les cœurs et les fleurs. Donc c'est John McLaughlin qui sera plus tard avec beaucoup de succès dans ce trio de guitare avec Aldi Meola et Paco de Lucia. Bon, moi j'ai pas jamais trop écouté ça, mais moi je vous conseille vraiment cet album, le troisième album solo, My Goals Beyond, de Mahavishnu McLaughlin. Mahavishnu, c'est son nom, le nom que lui a donné son gourou, Sri Chinmoy. Donc on va écouter une autre pièce qui s'appelle Philip Lane. Et alors voilà, on va entendre du gong et de la guitare énervée et toutes les influences flamenco, classique, folk et rock. On écoute. Bon voilà, cet album est parcouru de ça, de courtes pièces, et puis des moments beaucoup plus intenses comme ça. C'est vraiment ressentir l'intérieur de la musique et c'est vraiment un truc de hippie et de gros technicien. On écoute le morceau phare de l'album pour moi qui est Follow Your Heart, qui a été énormément repris. Voilà, un superbe thème. Dans ce thème, moi j'ai appris quelque chose, une seule note tenue et les accords qui changent derrière. On va écouter. La, et puis la. Voilà, j'adore ce morceau, Follow Your Heart, Suis ton cœur, de John McLaughlin, Mahavishnu McLaughlin.
Merci beaucoup Christophe pour cette chronique. On va écouter bien évidemment. Je commencerai bien la journée chaque jour avec cet album.
Je vous jure, cet album il vous décevra jamais, Saskia.
Ça tombe bien. Merci beaucoup Christophe de me l'avoir fait écouter ce matin plaisir. Et de l'avoir partagé avec nos auditeurs.
Avec
bien sûr,
plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine sur France Musique. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Merci à toute l'équipe, merci à Marie-Ferdinand, Félix Levaché, à qui je souhaite la bienvenue, qui faisait eh bien sa première émission à nos côtés. On est très heureux ce matin. Merci aussi à Cindy Le Grumelec et Déborah Dagobert. Et merci à vous, chers auditeurs, restez bien avec nous.
À réécouter sur francemusique.fr.